7h45 minutes à Rage Against le matin, boulevard 102-1, moins 13 degrés, quelques nuages et le soleil est aussi au rendez-vous. C'est pas mal ce qu'on va avoir aujourd'hui, avec un maximum de moins 7. Demain samedi, c'est plein soleil, avec moins 9 comme maximum, et c'est exactement la même chose pour dimanche. Lundi, journée plus douce, on commence la semaine sous les nuages avec un moins 4 degrés. Sur les routes, Max, à cette heure-ci, ça a l'air de bien rouler quand même.
Oui, c'est un bien beau matin. Ça s'est complexifié peut-être un petit peu dans la dernière demi-heure. Je vous dirais, le Capitale-Ouest, un petit ralentissement entre Henri Bourassa et Première Avenue. Ça va reprendre un peu dans le coin de Laurentienne, mais c'est vraiment pas la fin du monde. Robert Bourassa Sud vers le boulevard de Bourgneuf aussi, mais moins pire là, que les autres journées de la semaine. Arcade Sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest, même affaire, un petit peu de rouge, mais rien comparé à d'autres jours de la semaine. Secteur des ponts, c'est super beau. Dans les news, ce qui fait jaser le chroniqueur politique, Luc Lavoie est arrêté dans les derniers jours après s'être rendu dans une résidence de Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal, où il y aurait eu altercation avec une femme de 54 ans. Libéré sous condition, il pourrait être accusé d'introduction par effraction et de harcèlement criminel. Pendant la durée de l'enquête, Luc Lavoie, qui ne participera plus aux émissions de TVA et LCN. Et l'autre grosse nouvelle, le gouvernement du Québec et celui de Terre-Neuve-Labrador qui ont annoncé hier une entente de principe concernant le barrage de Churchill Falls. Hydro-Québec qui va payer 20 fois plus cher pour l'électricité par rapport à ce qu'il y avait dans la dernière entente signée en 69. En contrepartie, trois nouveaux projets hydroélectriques au Labrador devraient voir le jour dans les 10 prochaines années. Des investissements évalués à 25 milliards de dollars.
Ben oui, justement, parlons-en de cette entente historique ou principe, entente de principe, faut le dire, là, historique, avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. Normand Mousseau est avec nous, professeur de physique et membre de l'Institut Courtois à l'Université de Montréal, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à la Polytechnique Montréal et co-directeur scientifique du Carrefour de modélisation énergétique. Monsieur Mousseau, bon matin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Toujours un plaisir, Monsieur Mousseau.
Un plaisir aussi pour moi.
Monsieur Mousseau, pour le bien, j'allais dire pour le bien des auditeurs, mais sincèrement, pour le bien de tout le monde, pouvez-vous nous faire un petit historique là, de l'entente à l'époque Churchill Falls?
Ben, à l'époque, en fait, Terre-Neuve cherchait à développer là, les projets hydroélectriques sur le fleuve Churchill. Et le Québec voulait développer ses propres projets, mais n'ayant pas d'argent, Terre-Neuve s'est tourné vers le Québec et a dit « Bon, venez développer chez nous d'abord ». Puis finalement, donc ça a été fait dans un contexte où Hydro-Québec prenait l'entièreté des risques. On est en 69, on est dans une époque où les coûts de l'énergie sont très faibles. On prévoit que l'énergie va être presque gratuite à l'avenir. C'est dans ce contexte-là qu'on a négocié là, un contrat qui recouvrait les coûts, mais encore une fois, où les risques étaient importants. On l'a vu avec Muscat Falls beaucoup plus tard, là, où Terre-Neuve a fait le développement de son côté et s'est cassé les dents avec et se retrouve avec une électricité qui était extrêmement chère là, de son côté. Donc, il y avait des vrais risques et Hydro-Québec a passé, a réussi. Puis, peut-être 10 ans plus tard, là, après les crises pétrolières et autres, quand le prix de l'énergie s'est mis à monter, ben là, les Terre-Neuviens ont commencé à douter de l'entente, mm-hmm. puis à vouloir renégocier, là, ce qui n'a pas été permis par la Cour suprême, qui a dit que c'était un contrat négocié de bonne foi, où les risques étaient correctement assumés par Hydro-Québec, et donc tout était correct. Mais évidemment, au prix, à partir de 2016, en fait, le prix a chuté d'un quart de cent à un cinquième de cent de kilowattheure, et donc ça fait longtemps que les Terre-Neuviens se sentent un peu floués dans une entente dont on avait mal vu là, le déroulement.
Oui. Donc, à la base, M. Mousseau, vous l'avez tellement bien expliqué et mentionné, à un moment donné, ça a été fortement critiqué par les gens de Terre-Neuve. Mais à la base, quand on a, en 1969, c'était une entente qui était quand même juste.
Qui était juste, puis même, j'étais même favorable à Terre-Neuve, parce que l'entièreté des risques était pris par l'Hydro-Québec, par Hydro-Québec.
OK.
On arrive en...
Et c'est un peu la même chose encore aujourd'hui. Les risques sont pris par le Québec complètement. Hydro-Québec s'engage à acheter l'électricité que Terre-Neuve ne prendra pas, même dans la partie que Terre-Neuve se négocie pour y avoir droit. Si Terre-Neuve ne le prend pas, Hydro-Québec le prend. Et où est-ce qu'on sera dans 50 ans? Est-ce que l'électricité, on va être capable de la faire gratuitement ou presque? J'en doute. Mais on prend un risque quand on signe un contrat de 50 ans, on fait une évaluation, et c'est du côté d'Hydro-Québec que le risque est pris.
Et pourquoi ce risque-là est pris d'Hydro-Québec? Est-ce que c'est parce que, justement, on est en carence énergétique, puis on voit là vraiment un potentiel de développement rapide?
C'est pas rapide, mais c'est soutenu. L'enjeu, c'est qu'on s'en va vers la carboneutralité, même si on pense que ça ne serait pas. Le monde avance, l'électricité se déploie, même aux États-Unis, dans des États comme le Texas, l'énergie renouvelable, l'éolien et tout, c'est ça qui se fait développer aujourd'hui. Donc, tout le monde, on sait qu'on aura besoin de beaucoup plus d'électricité à l'avenir. Et le Fair Churchill, cette entente-là, permet d'avoir deux choses. Plus d'électricité, c'est une bonne chose, mais aussi plus de puissance. Et ça veut dire pourquoi? Ça veut dire que c'est une puissance qu'on peut partir et arrêter des turbines facilement. Et ça nous donne la possibilité de déployer plus d'éoliens au Québec. Donc, quand ils vendent pas, on part les turbines à Churchill. Quand ils vendent, on les ferme, on garde l'eau en arrière, puis on fait tourner les éoliennes.
Il y a des gens à Terre-Neuve pendant les années, puis vous l'avez bien mentionné, bien expliqué, qu'il y a eu une certaine frustration, on se disait par la suite. C'est pas en 1969, mais un peu plus tard, on s'est fait avoir, on s'est fait flouer par ça. Le premier ministre de Terre-Neuve, Andrew Fury, maintenant a signé cette entente historique avec le Québec, avec François Legault. On dit que c'est gagnant-gagnant. Êtes-vous d'accord? Est-ce que M. Fury va avoir de la misère à vendre cette entente-là aux électeurs et aux citoyens de Terre-Neuve?
Oui. En fait, quand on dit une certaine frustration, c'est une frustration certaine. Ils sont extrêmement frustrés.
Okay.
Quand on va à Terre-Neuve, on sent là, c'est vraiment là, quasiment une colère là, contre le Québec depuis longtemps. Donc, il faut... On l'a vu hier, M. Legault a quand même pas trop... Il s'est pas battu la poitrine en disant « Regardez, on les a eus, là ». Il faut au contraire, il y a tout un balai pour que le premier ministre puisse faire comprendre à sa population que c'est vraiment une bonne affaire de leur côté aussi.
On peut parler d'une entente où tout le monde sort gagnant, mais au moment des négociations, dans les négociations, qui avait le gros bout du bâton? Il y a tout le temps quelqu'un qui est en meilleure position pour négocier que l'autre dans les négociations. Est-ce que c'était le Québec ou c'était Terre-Neuve dans ce cas-là?
Ben, je pense que Terre-Neuve... Parce que Terre-Neuve était prête à faire des choses, des bêtises aussi, d'une certaine façon, là, pour pas signer. Donc, eux, ils seraient prêts quasiment à acheter l'électricité à côté, mais ils se retrouvent, eux, dans une situation économique très défavorable. Ce que j'entends, c'est que le fédéral avait dit aussi à Terre-Neuve, « Comptez pas sur nous pour vous sauver si vous n'arrivez pas à signer quelque chose. » Donc, il y avait des pressions de côté de Terre-Neuve, mais je dirais, Terre-Neuve a quand même accès au fleuve, à l'électricité, et pour Hydro-Québec... c'est un morceau extrêmement important dans la planification de son réseau puis la gestion de son réseau.
Du côté de Hydro-Québec également, François Legault martèle que les tarifs résidentiels n'augmenteront pas plus de 3%, puis il veut l'inclure dans le nouveau projet de loi de l'énergie. Est-ce que justement de développer des projets d'envergure comme ça, comme on va faire sur le sol de Terre-Neuve, va permettre justement à François Legault d'atteindre cette cible?
Non. L'idée, c'est que si on n'augmente pas les tarifs résidentiels, c'est les contribuables qui vont payer. Il n'y a pas de magie. Mm-hmm. On va construire des infrastructures dont les tarifs d'électricité, la production coûte plus cher que ce qu'on la vend aux citoyens. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de mystère, là. Cette idée-là de ne pas faire payer le prix exact là, aux citoyens, pour moi, c'est vraiment une très mauvaise idée. Très mauvaise idée parce que la façon de protéger les gens qui ont plus besoin de soutien, c'est de faire des programmes qui ciblent cela. Moi, le fait que l'électricité augmente de 4 % je suis capable de l'assumer. Puis c'est son vrai coût, c'est à moi de m'ajuster, là. Il faut plutôt mettre en place des programmes qui vont protéger les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir d'électricité plus chère ou d'autres choses plus chères. Je trouve que c'est une mauvaise idée.
C'est ce qui était inclus au départ dans le projet de loi de M. Fitzgibbon, je ne m'abuse.
Dans le projet de loi, on va créer une société. En fait, on c'est clairement dit, Hydro-Québec va dire combien on a besoin d'augmenter les tarifs.
Ouais.
Puis c'est les contribuables. Donc, le gouvernement va créer un fonds qui va payer la différence entre 3 % et les coûts réels.
OK.
L'idée, c'est de ne pas faire tout porter aux grands consommateurs industriels ou aux commerciaux institutionnels. Parce qu'en fait, dans un contexte nord-américain, les grands consommateurs industriels, je ne parle pas des alumineries où il n'y a pas beaucoup d'autres places où on pourrait fournir autant d'électricité, mais il y a beaucoup de clients, là, de gros clients de plus petite taille un peu, qui peuvent avoir des tarifs nettement plus intéressants aux États-Unis, par exemple. Donc, il faut faire attention quand même à ces tarifs industriels-là.
Monsieur Mousseau, corrigez-moi si je suis dans le champ. J'ai une petite théorie, puis il me semble qu'il manque de quoi dans l'équation. On parle de gagnant-gagnant, mais dans les dernières années, dans les derniers mois, lorsqu'on parle de cours d'eau, de modifier les cours d'eau, de territoire, de barrage, on pense aussi aux Premières Nations. Fait qu'on parle de gagnant-gagnant entre Québec et Terre-Neuve. On parle d'entente de principe historique, mais est-ce que dans tout le calcul et dans les négos et dans ce mélange-là, est-ce qu'on a aussi en tête les négociations avec les Premières Nations du Labrador?
En fait, oui. D'abord, du côté Terre-Neuve, il y a déjà une entente qui est faite.
Okay.
Donc, il y a eu déjà des négociations qui se sont produites dans le cadre de cette entente de principe-là. Où il n'y a pas de négociation, de ma compréhension, là, je peux en rater des bouts, parce que je ne suis pas un spécialiste des affaires
étatiques. Oui.
C'est du côté du Québec, où là, les Inuits, du côté du Québec, n'ont pas ont probablement été contactés, là, mais il n'y a pas d'entente qui a été encore de principe plus général sur comment on développe les projets sur leur territoire.
Parfait. Dernière question pour vous, M. Mousseau, en terminant. Quelles seront les autres grandes actions qui seront faites par le gouvernement du Québec après celle-ci pour justement augmenter notre capacité énergétique? C'est quoi qui s'en vient dans les cartons, selon vous?
On a déjà 3 gigawatts d'éoliens qui ont été annoncés, des projets. Il doit en avoir, on parlait de 10 gigawatts, donc il va en avoir encore beaucoup annoncés au cours des prochaines années. Ce sera en général des gros parcs, des très gros parcs, parce que ça permet à Hydro-Québec de s'insérer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Tout le monde veut des éoliennes. Tout le monde construit des nouveaux approvisionnements en électricité partout sur la planète. Et ce qui fait, donc, il y a une compétition très forte. Et Hydro-Québec, sa stratégie, c'est on y va rapidement, on y va avec des gros projets. Donc, on va avoir encore des très gros projets pour s'assurer qu'on a des bons prix, puis s'assurer qu'on va avoir les livraisons dans les temps qu'on veut.
Et est-ce que, justement, tous ces développements-là vont nous permettre d'atteindre la fameuse cible de 2035 pour la carboneutralité? Ou on est en...
Non, c'est 2050, la carboneutralité.
Oh, 2050, excusez, c'est vrai, 2035, c'est les voitures, je m'excuse, c'est vrai.
Ouais, oui.
Faut se donner un 15 ans de plus,
ouais,
là, au moins.
15 ans de plus. Ouais, est-ce qu'on est encore dans les échéanciers pour 2050, pardonnez mon lapsus?
Pour l'électricité, moi, je fais confiance, OK? Le problème, c'est que le restant de la société ne bouge pas, là, fait qu'on a des gros problèmes à mettre en place. On regarde les émissions de gaz à effet de serre au Québec, elles ne diminuent pas. Le gouvernement du Québec n'arrive pas à déployer des mesures transformatrices réelles. Mais heureusement, Hydro-Québec, avec Michael Sebia, a décidé qu'il tirait la locomotive, il ferait la locomotive, il tirait le train. Et je pense que ça va faciliter la décarbonation.
En terminant, hier, Michael Sebia, du côté d'LCN, a mentionné que la porte était définitivement fermée au nucléaire avec cette entente-là qui va se conclure. Est-ce que c'est une bonne décision de fermer carrément la porte au nucléaire ou ça aurait peut-être pu nous donner un coup de main éventuellement?
Des portes fermées, des portes ouvertes, il y en a tout le temps. Il faut prendre ces affirmations-là. D'ici 2035, c'est sûr que c'est pas nécessaire. Et il y a beaucoup de projets, beaucoup de promesses du nucléaire dont on devrait savoir si elles peuvent se réaliser ou non au cours des prochaines années. On annonce des petits réacteurs modulaires moins chers et tout. On les a toujours pas vus. Okay? Ça fait 15 ans qu'on nous les promet, on les voit pas. Donc, je pense que d'ici 10 ans, il y aura aussi des développements dans le stockage autre que l'eau, là, les grands réservoirs comme nous. Et moi, je pense que le nucléaire sera de moins en moins compétitif. Donc, c'est une bonne chose qu'on nous dise, on le considère pas pour le moment, mais on a le temps, d'ici 10 ans, de revoir les choses si jamais il y avait des changements technologiques.
Normand Mousseau, merci infiniment pour la discussion ce matin. Votre expertise est toujours très appréciée à Rage Against le matin.
C'est un grand plaisir.
Merci, à bientôt.
Merci.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir. Normand Mousseau, puis tu sais, la liste est longue. Des fois, il y a tellement... Tu sais, quand tu parles de...
Oui.
Mettons, là... Son LinkedIn Park. Il doit être... Il y a comme 3 pages. Non, mais sincèrement,
ben oui.
Professeur de physique et membre de l'Institut Courtois à l'Université de Montréal, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal, co-directeur scientifique du Carrefour de modélisation énergétique. Puis savez-vous quoi? J'en passe.
Oui.
Normand Mousseau, c'est un expert dans la matière, puis c'était vraiment le fun de parler autant de l'historique, de l'avantage... d'un bord ou l'autre, ou même l'autre aussi, il ne faut pas oublier les Premières Nations, et cette nouvelle entente-là, puis la suite des choses.
Exactement, la suite des choses qui va être plus dans l'éolien, ce que Normand Mousseau nous mentionne. Puis on se rend compte qu'il y avait vraiment une différence de philosophie entre Pierre Fitzgibbon et François Legault quand on parle avec M. Mousseau, puis qu'il nous décortique toute la tarification, augmentation plafonnée à 3 % pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, puis dans qu'est-ce qu'on aurait dû faire selon ce spécialiste-là, qui est le meilleur spécialiste au Québec, Normand Mousseau, bien, il penche plus dans l'optique Pierre Fitzgibbon que François Legault. Donc, on voit vraiment qu'il y avait une grosse différence de philosophie entre les deux hommes politiques.
Mais semble que ça fait un petit bout qu'on n'a pas jasé tramway.
T'as raison.
Barouette, on n'a pas coché notre quota tramway, nous autres, à Rage Against
the Machine. Cette semaine, on n'a pas parlé beaucoup, c'est vrai.
Fait qu'on va régler ça, puis on en parle dans la deuxième heure de l'émission avec le chef de l'opposition de la Ville de Québec, Claude Villeneuve.
On s'en